Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine d'actualité internationale. Une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon, mais aussi Marc Gollery, dont Bertie Bourdon, Lucas Lazo, réalisé par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Déborah Dagobert. Troisième volet de notre série consacrée aux sociétés face au virus. Quatre cas d'études après avoir parlé des États-Unis, de la Russie, mais avant de parler de l'Inde demain, place ce matin au Brésil. Le funeste déni de Bolsonaro, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Mas o que tínhamos que conter naquele momento?
Ce que nous devons contenir en ce moment, c'est la panique, l'hystérie, et dans le même temps planifier une stratégie pour sauver des vies et éviter un chômage de masse. Le gagne-pain des familles doit être préservé. Nous devons revenir à la normalité. Il faut arrêter la politique de la terre brûlée pratiquée par certains États qui ont bloqué les transports et les commerces et ont instauré des confinements de masse. En ce qui me concerne, vu mon passé de sportif, je ne serai pas préoccupé si je me retrouve contaminé. Je ne ressentirai rien d'autre qu'un petit coup de froid ou comme si je n'étais pas dans mon assiette.
Le 24 mars dernier, alors que le virus faisait déjà des ravages aux quatre coins de la planète, le président brésilien soutenait qu'il s'agissait là d'une petite grippette et demandait aux États et aux municipalités de lever leurs mesures de confinement. Depuis, le bilan sanitaire s'est bien aggravé avec plus de 270 000 cas avérés et près de 17 000 décès. Pourtant, ni ce funeste bilan, très probablement en dessous de la réalité, ni la démission de son ministre de la Santé dimanche dernier, ni la saturation des services funéraires de Sao Paulo, ni le désarroi du maire de Manaus en Amazonie appelant à l'aide internationale ne semblent convaincre Jair Bolsonaro de la dangerosité du coronavirus et de la nécessité d'agir pour le contenir. Mais ce déni n'est pas sans provoquer la colère d'une frange de la société brésilienne, mais aussi d'une partie de la classe politique qui demande sa démission ou sa destitution. Alors, la simple grippette pourrait-elle sceller le sort politique de Jair Bolsonaro? D'ailleurs, comment comprendre ce déni du président brésilien? Et qu'en est-il de la situation sur place dans un pays où les inégalités sont criantes et où toute une partie de la population reste à la marge du développement? Habitants des favelas, population autochtone d'Amazonie, nous essaierons d'ailleurs de comprendre comment ces Brésiliens traversent cette crise majeure. Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin, d'abord Juliette Dumont, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes historienne, maîtresse de conférence à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine de l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle et vous présidez également l'Association pour la recherche sur le Brésil en Europe. Avec nous également Olivier Dabenne, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Olivier Dabenne. Vous êtes bien là, on vous entend de loin, mais on vous entend. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Institut d'études politiques de Paris à Sciences Po et vous êtes chercheur au CERI. D'abord, on va peut-être commencer sur le bilan. Je le disais, on a franchi du côté du Brésil la barre des 270 000 cas confirmés, c'est-à-dire on est le troisième pays maintenant le plus touché au monde. On a quasiment 18 000 décès, pas tout à fait, mais on va probablement le franchir très très vite. Il y a un triste record ces dernières 24 heures avec plus de 1 000 morts enregistrés. Et puis par ailleurs, on a beaucoup de spécialistes qui s'accordent pour dire qu'en réalité, le pic de la pandémie n'est pas encore atteint. C'est un désastre sanitaire et humain là, qui est en train de se jouer au Brésil avec des perspectives en termes de bilan qui pourraient atteindre un funeste record, Juliette Dumont. C'est ça, en tout cas, toutes les conditions sont là, Juliette Dumont.
Oui. Oui, toutes les conditions sont effectivement là pour que le Brésil arrive en tête des pays les plus touchés par le Covid-19. On sait que les chiffres donnés par le gouvernement sont sans doute tout à fait sous-estimé. Quand on va sur le site du ministère de la Santé, en fait, il faut aussi regarder, il y a les nombres de morts et de contaminations par le Covid, mais il faut en fait regarder aussi le nombre de morts et d'hospitalisations pour les syndromes respiratoires aigus, puisque comme on manque de tests au Brésil, eh bien, beaucoup de morts qui, en fait, sont dues au Covid sont classées comme relevant de syndromes respiratoires aigus. Donc les chiffres sont sans doute beaucoup plus importants que ceux que vous avez donnés. Et comme il n'y a effectivement pas de politique à l'échelle du Brésil efficace pour lutter contre la pandémie, il est probable que le bilan soit très lourd.
On a un petit problème de liaison, on va essayer d'arranger ça. Olivier Dabenne, sur cette question du bilan, effectivement, il y a des spécialistes qui disent qu'en réalité, c'est peut-être 15 fois plus de cas qui toucheraient le Brésil. Certains spécialistes toujours évoquent un bilan à la fin de la pandémie de 100 000 morts potentiellement. À Sao Paulo, par exemple, on a déjà décidé d'enterrer les morts à la verticale pour optimiser l'espace dans les cimetières. Ça donne un tout petit peu une idée du bilan réel de la chose. Olivier Dabenne, sur le bilan, et puis on va essayer peut-être d'aller un peu plus en avant sur le système sanitaire, parce que il faut se demander s'il tient le choc ou non, ce système sanitaire brésilien, Olivier Dabenne.
Oui, de mon côté, je serais bien incapable de me prononcer sur les chiffres. On a effectivement le sentiment qu'ils sont peut-être sous-évalués. Il faut regarder d'un peu plus près. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a plus de ministre de la Santé au Brésil en ce moment et que par conséquent, la divulgation d'informations est sérieusement atteinte, puisque auparavant, il y avait des conférences de presse, il y avait des communiqués, etc. Deux ministres de la Santé ont dû démissionner en quelques temps et pour l'instant, il n'y a pas de remplacement prévu. Donc c'est un militaire d'ailleurs qui est à la tête du ministère et qui n'a pas de connaissances particulières de ces thématiques. Donc effectivement, pour ce qui est de l'information, on peut suspecter qu'il y a des déficits à l'heure actuelle. Pour le reste, il y a une très 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 grande inégalité à l'intérieur du pays. Je pense qu'on va en reparler entre des villes comme Sao Paulo où les installations hospitalières sont vraiment du premier monde entre guillemets. Et puis vous avez cité tout à l'heure Manaus où là on est dans le tiers monde absolu. Donc il y a une très très grande inégalité. C'est la raison pour laquelle c'est toujours très difficile de généraliser à l'échelle de ce pays continent.
Ouais. On aura l'occasion évidemment d'y revenir sur le cas de Sao Paulo en particulier puisqu'il est très touché justement ce territoire. Il y a vraiment une question qui pose sur le Brésil et sur Bolsonaro, parce que Bolsonaro n'est évidemment pas le seul à avoir dans un premier temps sous-estimé la Covid-19. Sauf que la plupart quand même des responsables politiques ont fini par prendre au sérieux tout ça et à se rallier au principe du confinement. Je pense à Donald Trump notamment. On a parfois eu une comparaison, un parallèle qui a été fait entre les deux. Bolsonaro, lui, il se démarque dans sa manière de continuer à nier cette réalité, à continuer à rejeter ce principe du confinement. Comment est-ce que vous comprenez l'un et l'autre, cet entêtement du président brésilien? Pourquoi est-ce qu'il refuse de regarder la réalité en face? On va commencer par vous, Juliette Dumont.
J'avancerai en fait quatre types de facteurs. Tout d'abord, il y a une logique jusqu'au boutiste de Bolsonaro qui maintient la rhétorique qu'il a eue pendant sa campagne et depuis le début de son mandat, c'est-à-dire une rhétorique complotiste, anti-système, se posant comme une espèce d'exception et de celui qui va révéler la vérité. Donc le coronavirus est importé de Chine, c'est un complot mondial, les médias mentent, les gouverneurs qui mettent en place des mesures de confinement vont à l'encontre de sa politique. Donc en fait c'est une manière de réassurer en permanence sa base de soutien. Deuxième chose, il y a aussi le fait que Bolsonaro est très lié et à l'appui des milieux évangéliques, qui sont des églises anti-scientistes, qui ne reconnaissent pas la légitimité de la science, et avec cette idée que c'est Dieu qui décidera, que Dieu reconnaîtra les siens, et que le pouvoir politique n'a pas à intervenir. Troisième type de facteur, c'est le facteur économique. Si Bolsonaro va avoir une chance d'être réélu en 2022, ou en tout cas pour le moment de ne pas perdre complètement ses appuis en dehors du noyau de fanatiques, c'est à la condition que l'économie reparte. Et donc pour que l'économie aille bien, eh bien il ne faut pas de confinement. Donc il y a là, il n'arrête pas de dire, et l'extrait que vous avez passé le montre bien, de dire « je ne serai pas le responsable d'une crise économique et d'un chômage de masse ». Ce seront les autres qui seront responsables. Donc c'est une manière de se dédouaner de la crise économique. Et enfin, il représente un certain Brésil qui est profondément inégalitaire et où il y a un discours des élites selon lesquels les plus faibles méritent de mourir. Un discours très spencérien où finalement, c'est la loi du plus fort qui triomphe.
Olivier Dabenne, je voudrais rebondir sur le troisième facteur qui était évoqué par Juliette Dumont, c'est-à-dire le facteur économique. Parce que il y a effectivement ce pari de Bolsonaro qui dit il faut pas confiner, il faut reprendre l'activité parce que la crise économique et sociale qui va en découler sera encore bien plus terrible que la crise sanitaire. Est-ce que vous pensez que ce pari politique de Bolsonaro peut fonctionner? Puisqu'il dira demain, le confinement, la fin de l'activité et donc la crise économique, c'est la faute de mes opposants qui ont favorisé, qui étaient favorables à ce confinement et à cet arrêt de l'activité. Ce pari politique, il peut marcher, Olivier Dabenne ?
Oui, moi je pense qu'il peut marcher, effectivement. Bon, alors évidemment, avec beaucoup de nuances il faut en discuter dans le détail, mais il y a quand même quelque chose qui est en train de se jouer effectivement dans cette défense de l'économie et cette volonté à tout prix de redémarrer le pays, un peu comme l'a dit Trump à plusieurs reprises. Ce qui se joue, c'est effectivement l'élection de 2022. Alors évidemment, il est plutôt mal parti. On annonce déjà pour cette année la pire récession économique de toute l'histoire du pays. Donc bon, il faudra qu'il revienne de loin, mais c'est pas impossible. Et d'ailleurs, moi, je suis très attentif aux sondages d'opinion. Et finalement, pour l'instant, il s'en sort pas si mal. Sa cote de popularité, elle baisse, c'est vrai. Mais elle est encore assez respectable. Il y a en gros un tiers des Brésiliens qui continuent d'être plus ou moins fidèles à Bolsonaro. Ça fait une base de départ pour une élection qui est pas si mauvaise que ça dans 2 ans. Donc, bon, c'est vraiment, je pense, une question très 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 politique. L'économie et le politique sont totalement liés, et ça a à voir finalement avec la façon dont il a été élu. Hein. Si on revient en arrière et qu'on regarde comment il a été élu, comment il s'est retrouvé président de la République, cet inconnu, ce parlementaire inconnu, ben on va facilement se rendre compte que il a aujourd'hui une base de soutien qu'il doit à tout prix préserver s'il veut avoir un minimum de chance de se représenter avec succès en 2022, et c'est pas impossible que ça marche.
Ouais, donc le calcul politique n'est pas complètement fou. Juliette Dumont, il faudra aussi compter sur l'opposition. Alors, il y a une partie évidemment des Brésiliens qui s'opposent à sa gestion de la crise, mais il y a aussi des responsables politiques et notamment des gouverneurs qui s'opposent à Bolsonaro, des gouverneurs qui ont fait le choix de prendre des mesures de confinement. On parlait tout à l'heure de Sao Paulo. Le gouverneur João Doria, lui, a décidé de prolonger le confinement jusqu'au 31 mai, donc dans une quinzaine de jours, dizaine de jours. Cette opposition, cette fronde des gouverneurs, quelles pourraient être les conséquences politiques pour Bolsonaro ? Jusqu'où est-ce qu'elle peut aller, cette opposition ?
Il y a deux choses. Enfin, d'abord, cette opposition des gouverneurs, elle met à jour un délitement du pacte fédéral. Hein. Il y a une opposition entre l'État fédéral et les gouverneurs, mais il ne faudrait pas croire en fait à une unanimité et à une union sacrée des gouverneurs, parce qu'ils sont très divers. Hein. Vous parlez de João Doria, qui est plutôt de centre droit. On peut parler aussi de Witzel dans l'État de Rio, qui a lui aussi pris des mesures de confinement et qui est à l'extrême droite, ou de Flavio Gino dans le Maranhão, qui lui est du Parti communiste. Et ces gens-là ne s'entendent pas très bien entre eux. Hein. Et quant à Witzel et João Doria, on les présente aujourd'hui un peu comme des sauveurs de la patrie, mais ce sont des gens qui ont mené des politiques absolument délétères en matière sociale, en matière sécuritaire. Donc, si vous voulez, pour l'instant, il n'y a pas de front sacré, il n'y a pas d'union politique sacrée pour sauver le Brésil de la crise sanitaire face à Bolsonaro. Et Olivier Dabenne notait à juste titre que la popularité de Bolsonaro reste encore élevée malgré tout, mais parce qu'il n'y a pas d'alternative. Pour l'instant, l'opposition, que ce soit au Parlement, au Sénat ou dans les États, eh bien, est totalement morcelé, désorganisé. Le Parti des travailleurs est très peu audible pendant cette crise. Donc le seul leadership pour l'instant qui existe, c'est celui de Bolsonaro. Et il ne cesse de le réaffirmer. Hein. Toutes ces déclarations fracassantes, mais aussi le fait d'avoir limogé le précédent ministre de la Santé, hein, Mandetta, qui était lui aussi de droite ultralibérale mais compétent, c'était un désaccord sur la question du confinement et des mesures, mais c'était aussi parce que Bolsonaro avait pris ombrage de la popularité de Mandetta. En mars, il déclarait « Il paraît que Mandetta est plus populaire que moi, ça ne va pas ». Donc le seul qui affirme un leadership pour le moment, c'est Bolsonaro, et face à lui, il n'y a pas de construction d'une opposition qui présente un programme alternatif, et notamment pour sortir de la crise sanitaire.
Olivier Dabenne, sur cette fronde des gouverneurs, mais pas front anti-Bolsonaro, nous dit Juliette Dumont, jusqu'où elle pourrait aller cette fronde? Parce que tout de même, certains gouverneurs appellent, alors la démission, on peut toujours la demander, il est clair que Jair Bolsonaro ne démissionnera pas, en revanche, certains appellent à sa destitution. Est-ce que ce scénario-là serait possible? C'est déjà arrivé, rappelons-le, dans l'histoire récente du Brésil. La destitution,
oui,
je parle évidemment d'Dilma Rousseff.
Oui, Dilma Rousseff, mais Fernando Collor aussi, dans les années 90. Oui, c'est pas impossible, mais c'est très peu probable. D'abord, l'opinion publique ne soutient pas l'impeachment. Le président est impopulaire, mais la crise politique qui amènerait à une destitution l'est encore davantage, je dirais. Donc les Brésiliens ne veulent pas rentrer dans cette crise politique qui amènerait la destitution. Cela dit, c'est vrai que c'est quand même aujourd'hui, la plupart de mes collègues qui font de la science politique au Brésil ne voient pas Bolsonaro terminer son mandat. Alors évidemment, dès qu'on rentre dans le détail pour voir un peu comment ça pourrait se passer, c'est là qu'il y a des débats, c'est compliqué, et personne n'y voit très clair.
C'est quoi ces débats, justement? C'est important qu'on ait bien les éléments, Olivier Dabenne. C'est quoi ces débats? Qu'est-ce qui bloquerait une éventuelle destitution?
Il faut un vote, il faut un vote aux deux tiers à l'Assemblée, puis ensuite au Sénat. Donc, si on bénéficiera des soutiens, c'est très compliqué. Le système politique brésilien est très compliqué. Le pacte fédéral, Juliette vient d'en parler, est très compliqué. Il donne beaucoup de pouvoir aux gouverneurs. Les gouverneurs ont un rôle à jouer, mais...
Alors, la liaison avec Olivier Dabenne est en train de se détériorer. On va essayer de la rétablir. On va poursuivre avec Juliette Dumont. On essaye de rétablir la liaison avec Olivier Dabenne, toujours en direct avec nous. Juliette Dumont, sur cette possibilité peu probable, nous disait Olivier Dabenne, mais en tout cas de destitution, qui est bel et bien là, est-ce qu'elle vous paraît envisageable, plausible, ou c'est inenvisageable pour vous, Juliette Dumont?
Là, en ce moment, au Brésil, pour le Brésil, je ne me hasarderais à aucun pronostic, en fait. Je vais du coup continuer ce que disait Olivier Dabenne. On a un système politique brésilien qui fait en sorte que les alliances se font et se défont en permanence. Et c'est encore plus vrai sous Bolsonaro. Donc on est en perpétuelle redéfinition, en fait, des alliances. Je pense, là, en ce moment, Bolsonaro essaie de se rappeler, de se rapprocher de ce qu'on appelle les partis du centrão. Alors c'est une espèce de centre mou, de partis sans véritable colonne vertébrale idéologique, hein, c'est des partis qu'on appellerait opportunistes, donc pour avoir toujours quand même un soutien au Congrès, ce qui va totalement à l'encontre du programme du candidat Bolsonaro, qui disait, voilà, il faut une idéologie forte et je ne m'allierai jamais à ces gens-là. Pour la destitution, comme le rappelait Olivier Dabenne, il faut un vote des deux tiers. Ça veut dire notamment que le Parti des travailleurs devra s'allier avec des membres des partis qui ont œuvré à la destitution de Dilma Rousseff. Or, la destitution de Dilma Rousseff a créé une crise très profonde au Brésil et une plaie très importante pour le Parti des travailleurs. D'ailleurs, Lula, Dilma Rousseff, Fernando Haddad ne cessent de revenir sur le récit de cette destitution. Et donc, c'est très compliqué de dire aujourd'hui le Parti des travailleurs va accepter de s'allier avec le PSDB, le PMDB, qui sont des partis de centre-centre droit, qui ont œuvré à la destitution de Dilma Rousseff. On a vraiment un champ politique qui est à la fois très morcelé et une opinion publique très polarisée. Olivier Dabenne le rappelait, hein, il y a 45% de Brésiliens qui seraient favorables à la destitution de Bolsonaro, mais 48% qui ne le souhaitent pas. Et encore une fois, parce qu'il n'y a pas de projection pour une alternative. Et enfin, parce qu'on redoute une crise politique majeure.
Vous faites référence
aux chiffres. Je terminerai en disant que, enfin, pour l'analyste, ce qui ressort, et ce qui est très inédit dans l'histoire brésilienne, c'est qu'on parle toujours du Brésil terre d'avenir, d'un pays qui ne cesse de se projeter en avant, quitte à oublier son passé et à mal gérer le présent. Aujourd'hui, on a un pays qui n'arrive plus à se projeter vers l'avenir et qui est comme englué dans le présent. Soit on regarde, c'est le cas de Bolsonaro et de ses soutiens, vers la dictature en disant ça c'était un âge d'or, soit on a une gauche, des intellectuels également, qui sont incapables de de penser l'avenir. En fait.
Ouais, donc englué dans le présent, mais aussi englué dans le passé avec cette nostalgie de la dictature militaire. Olivier Dabenne, vous êtes d'accord pour dire que finalement le combat politique du moment, il va se jouer au centre, il va falloir, pour éviter la destitution pour Bolsonaro, aller chercher des alliés au centre, c'est là que se joue le combat politique à venir. Olivier Dabenne.
Oui, oui, je suis complètement d'accord avec cette lecture. Il y a un degré de division à l'Assemblée parlementaire au Brésil qui est inédit. Enfin, le Brésil détient le record du monde de ce qu'on appelle la fragmentation parlementaire. C'est-à-dire il y a une myriade de petits partis politiques dans cette Assemblée. C'est très difficile à gouverner. Il faut construire des alliances. C'est pas simple. Et comme l'a dit Juliette, il est en fait en train d'essayer de se construire une base de soutien avec les partis politiques qu'il a combattus pendant sa campagne, qui représentent la vieille politique brésilienne, c'est-à-dire celle des alliances, des marchandages, du clientélisme, de la corruption, tout ce qu'il a rejeté en tant qu'outsider, quand il s'est présenté devant les électeurs comme un outsider, pour dire qu'il voulait plus de cette vieille politique, plus de ce qu'on appelle du présidentialisme de coalition. C'est-à-dire cette façon qu'ont les présidents de construire des alliances en monnayant des soutiens. Tout ça, il n'en voulait plus et aujourd'hui, il est en train de le faire. Donc évidemment, ça va avoir un petit peu un mauvais effet vis-à-vis de l'opinion publique. Mais pour l'instant, ça se traduit pas tellement, comme on l'a dit, par un écroulement de ses soutiens. Enfin, je pense que la meilleure lecture de sa réponse à la crise sanitaire, c'est cette lecture politique. C'est-à-dire, en fait, il est en train d'essayer de faire plaisir au maigre soutien qu'il a. Il est en train, par exemple, de prendre tout un tas de mesures qui passent un peu inaperçues et sans donner cette crise sanitaire, mais qui font avancer son agenda extrêmement conservateur concernant la.
Voilà. Alors là, je pense que c'est le
tout un tas de sujets où on le voit bien en train de cultiver ses soutiens.
Voilà, la connexion n'est pas très bonne, Olivier Dabenne. Je pense qu'on va essayer d'établir une nouvelle connexion à nouveau, mais vous restez avec nous. On parle évidemment des conséquences politiques de cette Covid-19. Il faut savoir qu'on arrivait déjà sur un terrain du côté du Brésil en pleine crise politique, et notamment avec cette démission récente de la grande figure de l'exécutif brésilien qui était un peu la belle prise de Jair Bolsonaro, ce juge Moro qui était devenu ministre de la Justice et qui récemment a démissionné.
Le grand problème de réaliser cette troca, primeiro haveria uma violação.
Le gros problème avec ce remplacement, c'est qu'il viole une promesse qui m'avait été faite initialement, à savoir que j'aurais carte blanche. Deuxièmement, il n'y a pas de motif pour ce remplacement. Il est donc clair qu'il y a une ingérence politique dans la police fédérale.
Na Polícia Federal.
Não são verdadeiras as insinuações.
Les insinuations selon lesquelles je chercherais à obtenir des informations sur les enquêtes en cours sont fausses. Depuis presque 16 mois que vous êtes à la tête du ministère de la Justice, Monsieur Moro, vous savez que je ne vous ai jamais demandé d'interférer dans les enquêtes qui étaient menées.
Voilà, donc passe d'armes entre Moro, qui a donc démissionné de son poste de ministre de la Justice, et le président Jair Bolsonaro. Peut-être, Juliette Dumont, faut-il rappeler en quelques mots les raisons de cette démission, ce qu'il y a derrière, et puis les conséquences, parce que derrière les accusations du juge Moro, le petit juge de province, il y a une bombe politique possible, c'est-à-dire que le tribunal suprême fédéral a récemment ordonné l'ouverture d'une enquête sur les accusations d'ingérence dont vous allez nous parler, et donc potentiellement, il n'est pas impossible que Jair Bolsonaro se retrouve démis de ses fonctions pour des raisons de justice, par décision de justice, Juliette Dumont.
Oui, là encore, ça va beaucoup dépendre des alliances fluctuantes et des reconfigurations qui vont avoir lieu dans les semaines qui viennent. Si vous voulez, la démission de Moro, elle est purement politique et opportuniste. Moro n'a pas démissionné parce qu'il a un sens aigu de la justice et du respect de la séparation des pouvoirs, puisque en tant que juge et notamment acteur essentiel de l'opération Lava Jato qui a conduit Lula en prison, Moro a participé à une politisation extrême de la justice, entraînant une confusion des genres dont le Brésil souffre aujourd'hui. Donc en plus, ce n'est pas la première fois, enfin, ce n'est pas la seule affaire qui vise la famille de Bolsonaro. On se souvient aussi que la famille de Bolsonaro est mêlée d'une manière ou d'une autre, qui a beaucoup de faisceaux de coïncidences, avec le meurtre, l'assassinat de la députée Marielle Franco. Donc, si vous voulez, c'est un prétexte pour Moro. Si vraiment il était embêté par le fait que Bolsonaro ait des ennuis avec la justice, il ne serait pas rentré dans ce gouvernement. Mmh. Donc, il a pris, si je puis dire, le train de Mandetta. Hein, il est allé dans le sillage de la limogeage du ministre de la Santé, qui était également populaire et plutôt respecté, pour ne pas avoir à subir la colère de la population face à la non-gestion de la crise sanitaire et ainsi se réserver la possibilité d'un avenir politique. Qu'il soit, alors certains disent présidentiel, mais au moins peut-être va-t-il briguer un poste de sénateur ou de député.
Olivier Dabenne, qu'on a dû retrouver avec une nouvelle connexion. Olivier Dabenne, est-ce que vous nous entendez ?
Parfaitement, oui.
Oui, très bien. Donc, sur les conséquences politiques de cette démission de Sergio Moro, Olivier Dabenne.
Encore une fois, il faut en revenir à 2022. Beaucoup de gens sont en campagne. Moro, il fait partie de ces potentiels candidats à la présidence, au même titre que Doria. On a parlé du gouverneur de l'État de São Paulo. Tout est question de trouver un champion pour s'opposer à Bolsonaro, ça va pas être facile. Mais effectivement, il faut pas prendre. Juliette l'a bien dit, il faut pas prendre Moro, le juge comme étant, si vous voulez, quelqu'un qui a une moralité. Enfin, tout ça est un calcul stratégique et on peut lui faire confiance. C'est un calculateur. Maintenant, le chemin est encore long entre l'enquête qui se déroule en ce moment et une éventuelle démission ou destitution, ça va prendre du temps et c'est pas du tout sûr que ça aboutisse.
Oui, il faut rappeler qu'effectivement, il y a eu des informations qui ont été publiées récemment qui révélaient que Sergio Moro avait été, disons, pas tout à fait impartial dans la condamnation de Lula qui l'a conduit derrière les barreaux. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous parliez de João Doria, donc le gouverneur de São Paulo. Juste en quelques mots, je dresse un peu le portrait pour les auditeurs. C'est un homme d'affaires qui est multimillionnaire, qui avait été élu à la mairie de São Paulo en battant très largement Fernando Haddad, qui était le candidat malheureux du Parti des Travailleurs de la dernière présidentielle. Il l'avait battu dès le premier tour à plate couture, hein, 53% des voix contre 16 pour Haddad. Ensuite, il a été élu à la tête de l'État de São Paulo en octobre 2018. Par ailleurs, c'est un ancien allié de Bolsonaro avec qui il a rompu et il est à la tête de cette fronde anti-Bolsonaro des régions, même si Juliette Dumont nous disait tout à l'heure, attention, c'est pas un front qui est parfaitement uni, mais en tout cas, on l'entend beaucoup. Est-ce qu'on est en train, là, Olivier Dabenne, vous parliez de Moro, de voir émerger avec Doria une figure politique qui potentiellement pourrait s'opposer à Bolsonaro en 2022 il est en train de devenir, avec cette crise de la Covid, un présidentiable, Olivier Dabenne?
Oh, c'est possible. Après, les candidats qui viennent de São Paulo ont toujours un handicap au Brésil parce qu'ils sont en général pas très connus dans le reste du pays. Alors c'est vrai que São Paulo représente une bonne partie de l'électorat national, donc il vaut mieux faire campagne et être connu dans cette grande métropole et ce grand État que dans le nord ou nord-est. Mais il y a quand même toujours ce problème. Lui, il est plutôt bien placé, je dirais. C'est un communicant aussi. Hein. Il faudrait pas oublier cette dimension. Mmh. Il a un peu la même façon, d'ailleurs, de céder à certaines tentations populistes. Il communique très bien. Et il joue avec la télévision. Oui, il est plutôt pas mal placé. Il pourrait avoir le soutien du PSDB, que c'est quand même pas négligeable non plus, le parti qui a déjà gouverné à plusieurs reprises dans le passé. Donc moi je le vois, oui, comme un bon candidat pour se présenter comme un candidat assez conservateur, mais sans, les excès Bolsonaro, les excès antidémocratiques et populistes de Bolsonaro.
Même si évidemment il faudra rassembler davantage de soutien que ceux qui sont derrière Bolsonaro aujourd'hui, et ils sont là, hein. Ils étaient par exemple dimanche dernier devant le palais présidentiel de Brasilia, écoutez.
C'est une pure manifestation de démocratie. Je suis très honoré. Le gouvernement fédéral a donné tout son soutien aux gens contaminés par le virus et on espère bientôt venir à bout de ce problème.
Voilà, Bolsonaro qui est sorti saluer évidemment ses soutiens qui avaient fondu en voiture devant le palais présidentiel pour affirmer leur soutien à leur chef. Il y en a régulièrement des manifestations, Juliette Dumont. Il y en avait une qui avait été particulièrement frappante, c'était mi-avril. où on avait des manifestants, notamment qui portaient des pancartes appelant à l'intervention militaire et à l'application d'une loi qui, en 1968, avait imposé la fermeture du Congrès et la suppression d'un certain nombre de droits constitutionnels. Est-ce que ce coup de force institutionnel que beaucoup craignent depuis l'arrivée de Bolsonaro vous paraît possible aujourd'hui ? Est-ce qu'il pourrait faire vaciller la démocratie ? Juliette Dumont.
Je dirais que la démocratie brésilienne a déjà vacillé, hein, elle va déjà très mal. Après, depuis quasiment l'arrivée au pouvoir de Bolsonaro, on se demande s'il y aura un auto-coup d'État, c'est-à-dire le basculement dans un régime autoritaire appuyé par les militaires. Et les spécialistes hein, des militaires au Brésil, là aussi, se perdent un petit peu en conjecture, ont du mal à savoir ce qu'il en est. Parce que l'armée elle-même est assez divisée, l'armée de terre est assez présente auprès de Bolsonaro, mais la marine pas du tout. On a du mal à saisir hein, toutes les différentes factions au sein de l'armée. Ce qui est sûr, c'est que le discours d'un retour à la dictature, d'un appel à un régime autoritaire, sont de plus en plus présentes. Hein. Bolsonaro a appelé dès l'an dernier. Le 31 mars a commémoré le coup d'État de 64 en disant que ça avait libéré le Brésil des communistes. Et depuis, et bon, même avant, hein, lors de l'impeachment de Dilma Rousseff, il a dédié son vote en faveur de l'impeachment à l'un des principaux tortionnaires de la dictature. Et il fait régulièrement, il a reçu d'ailleurs il y a 3 semaines au palais présidentiel un des tortionnaires de la dictature. Donc si vous voulez, il y a ça et face à une crise polymorphe, la crise polymorphe que connaît le Brésil, parce qu'on parle de crise politique, mais elle est aussi économique, elle est aussi sociale, elle est aussi culturelle, elle est aussi morale. Et c'est une crise qui a débuté en 2013 et qui n'a cessé de s'amplifier depuis. Donc il y a une sorte de perte de repères. La démocratie brésilienne est une démocratie jeune, elle date de 1988. La constitution de 88 est une belle constitution sur le papier, mais elle est le fruit aussi d'un certain nombre d'accommodements, de négociations, de compromis entre les militaires et une certaine élite brésilienne. Et ce que l'on a vu avec la destitution de Dilma Rousseff, la présidence de Temer et l'élection de Bolsonaro, c'est en fait la fragilité du pacte démocratique brésilien. Donc là, effectivement, toutes les semaines, je dirais, on se demande quand est-ce que ça va vaciller pour de bon.
Olivier Dabène.
Pour l'instant, ça ne vacille pas pour totalement, mais voilà.
Olivier Dabène, sur la possibilité de ce coup de force institutionnel, et donc la question qu'il y a derrière, savoir si les militaires seraient prêts à le suivre, parce que c'est de ça dont il est question. Je me souviens qu'au début de l'élection de Bolsonaro, beaucoup craignaient précisément l'influence des militaires sur le pouvoir. Et puis, avec le temps, on disait, les observateurs disaient qu'en réalité, dans le couple Bolsonaro-militaire, c'était plutôt les militaires qui étaient les modérateurs. Et Bolsonaro, d'une certaine manière, l'agitateur et l'homme qu'il fallait calmer. Jusqu'où est-ce que les militaires, Olivier Dabène, seraient prêts à suivre Bolsonaro sur ce coup de force institutionnel possible ?
Alors, les militaires, ils suivent déjà Bolsonaro. Les militaires, ils sont au pouvoir. Ils ont un certain nombre de ministères. Ils ont la vice-présidence. Ils sont partout dans l'administration, haute fonction, partout. Mais disons, ils ont un certain nombre de postes dans la haute administration. Donc, ils sont déjà installés au pouvoir. La question, c'est de savoir, est-ce qu'ils veulent plus ? Est-ce qu'ils peuvent avoir plus ? Parce qu'un coup de force, ça veut dire quoi très concrètement ? Ce que réclament les manifestants les dimanches, c'est fermer le Congrès, fermer le tribunal suprême, parce que ce sont des obstacles à la gouvernabilité du pays. Ça, c'est quand même très compliqué. Et moi, je ne vois pas les militaires. Il y a un jeu qui est assez subtil, d'ailleurs. Chaque fois que Bolsonaro fait des déclarations un petit peu fracassantes, il n'y a pas une réponse sous forme d'un communiqué officiel des forces armées, mais il y a quand même des tweets ou des petites déclarations où les militaires font quand même clairement état de leur soutien à la démocratie. Donc moi, je ne vois pas les militaires. C'est pas dans leur intérêt. Je pense qu'ils sont bien là où ils sont. Ils contrôlent une partie du gouvernement. Ils contrôlent d'une certaine façon aussi. Vous parliez de modération. C'est vrai, ils contrôlent, ils modèrent un petit peu les ardeurs parfois fougueuses de Bolsonaro. Donc moi, je vois pas pourquoi ils iraient plus loin. En plus, le coût politique international serait absolument énorme. Enfin, un auto-coup d'État. C'est quelque chose qui est quand même aujourd'hui très compliqué à mettre en œuvre dans un grand pays comme le Brésil. Je ne pense pas que ça soit dans l'intérêt des militaires. Il faut quand même prendre la mesure de ce que représente cette volonté d'aller vers la dictature. Pour moi, c'est quand même quelque chose qui est très, très minoritaire. On en fait grand cas, mais il y a quand même pas beaucoup de monde qui manifeste. Les caméras de télé se braquent sur peut-être une centaine de manifestants, mais il n'y a pas beaucoup de monde. Je pense que dans l'opinion publique, c'est quand même assez minoritaire. Les gens sont attachés à la démocratie. Et je ne pense pas qu'il est possible aujourd'hui sérieusement d'envisager qu'il y ait un soutien large pour une dictature au Brésil.
J'entends bien, Olivier Dabène, mais il faut peut-être rappeler que Bolsonaro a largement défendu cette vision nostalgique de la dictature lorsqu'il faisait campagne et qu'il a quand même recueilli une majorité des suffrages exprimés, Olivier Dabène. Donc je veux bien, vous avez raison. Sur les images du son qu'on vient d'extraire, on voit effectivement qu'il y a en réalité assez peu de monde, mais il a quand même été élu et il n'a jamais caché son aversion pour la démocratie. Et quand il dit par exemple que si la Cour suprême venait à confirmer une enquête pour lui ou un de ses proches, quand il dit qu'il ne respecterait pas cette décision de justice, cette décision de juge, il y a de quoi s'interroger et on peut se demander si les militaires seraient prêts, oui ou non, à le suivre sur un tel geste.
Non, j'entends bien, mais ce que montrent les enquêtes, c'est que ces déclarations fracassantes pendant la campagne sur la dictature, son soutien aux tortionnaires, etc., etc., c'est pas la raison principale pour laquelle les gens ont voté pour lui. Il y a d'autres choses. Il y a un bloc de catégories populaires qui a voté pour lui parce qu'il a fait tout un tas de promesses. Vous avez aussi des gens un peu plus cultivés qui ont voté pour lui. Il faut pas les oublier. C'est pas juste du populisme. Dans les favelas, ce qui a porté Bolsonaro au pouvoir, mais bon, c'est aussi la détestation du PT chez une partie de l'opinion publique, le rejet de la gauche. Il y a plein de raisons, et parmi ces raisons, on trouve très très peu la volonté de voir revenir un régime militaire. Hein. Donc, je pense qu'il est quand même assez isolé. Il y a personne dans la classe politique au Brésil qui le suit quand il fait ses déclarations fracassantes. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus accorder trop trop d'importance à ces déclarations-là.
On est avec vous, Olivier Dabène, et vous, Juliette Dumont, dans cette série consacrée à quatre sociétés face au virus. Et on parle ce matin du Brésil, le funeste déni de Bolsonaro. On va s'intéresser en particulier des favelas direction Sao Paulo, l'un des principaux foyers du Covid.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Votre mère a été testée positive au Covid. Vous vous êtes occupé d'elle ces jours-ci et vous avez des symptômes, c'est bien ça ? Je vais vous rendre visite, j'appelle mon équipe et j'arrive.
En temps normal, les ambulances ne rentrent pas ici. Ou alors elles prennent beaucoup de temps.
Je m'inquiète beaucoup pour les gens de Palaisopolis. C'est ma famille, c'est mon peuple. Et Palaisopolis, comme toutes les favelas du pays, sont abandonnées par l'État.
Voilà, témoignage d'un habitant de la favelas de Paraisópolis qui se dit inquiet pour son quartier, qui se dit abandonné aussi par l'État. Un témoignage recueilli par France 24, parce que un peu partout, bien sûr, ce virus agit comme un révélateur des inégalités sociales. Et c'est également le cas du côté du Brésil, et en particulier dans les quartiers populaires, et en particulier du côté de Sao Paulo, où on retrouve tout de suite Livia Khalil. Bonjour Livia Khalil.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes doctorante en sciences politiques et donc à l'Université Sorbonne Nouvelle et Université de Sao Paulo, et vous coordonnez le pôle Brésil de l'Institut des Amériques de l'Université de Sao Paulo. Vos recherches portent sur les politiques publiques en général et notamment sur les politiques de lutte contre le réchauffement climatique. Et dans ce cadre, vous vous intéressez en particulier à la question de la crise hydrique qu'on aura peut-être l'occasion d'évoquer. Mais d'abord, je voudrais qu'on s'arrête un instant, Livia Khalil, sur cette résilience et cette capacité à réagir des populations. Parce que si ces populations défavorisées des favelas sont abandonnées par l'État, comme on l'entendait à l'instant dans ce témoignage, il y a malgré tout un élan de solidarité extrêmement fort pour essayer de pallier ces insuffisances, comme on l'a vu dans ce quartier de Sao Paulo. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre un peu la mesure de cette organisation, de cette solidarité des populations, Livia Khalil?
Tout à fait. Donc, comme l'extrait que vous avez passé en ce moment nous a pu faire comprendre, Effectivement, la population des quartiers défavorisés de la ville de Sao Paulo, mais aussi dans les autres quartiers du Brésil et des favelas en général, se sont mobilisés face à le manque d'action des gouvernants et de l'État brésilien. Donc on sait que les politiques publiques n'arrivent pas de manière égalitaire dans tous les territoires du pays. Donc ces populations-là ont dû compter avec la solidarité des personnes et s'organiser de manière autonome pour faire face à la pandémie du coronavirus. Par exemple, à Paraisópolis, on sait que l'association des habitants du quartier ont organisé, ont formé des habitants locaux au premier secours pour qu'ils puissent être en mesure d'aider les personnes qui ont été atteintes par la Covid-19.
Et puis on a également distribué des kits d'hygiène, des masques en tissu qui ont été cousus sur place. On a fabriqué du gel hydroalcoolique. Il y a énormément de choses qui ont été faites. Il y a un problème évidemment très important, Juliette Dumont, dans cette crise sanitaire. C'est la question de l'accès à l'eau. Parce que pour faire face à ce défi, il faut avoir un accès à l'eau pour bien respecter les gestes barrières. Or, au Brésil, il y a un vrai problème de ce point de vue-là. Alors, je ne sais pas si les chiffres sont exacts, mais il se dit qu'environ 35 millions de personnes aujourd'hui au Brésil n'ont pas un accès à l'eau. C'est à peu près 15% de la population, donc c'est absolument énorme. Je ne parle même pas de l'assainissement qui fait défaut pour encore plus de Brésiliens. Si on prend par exemple le cas de Sao Paulo, dans quelle mesure est-ce que justement ce problème de l'accès à l'eau est un souci dans cette crise sanitaire? Et au fond, qui est responsable, prenons le cas de Sao Paulo, de cette défaillance dans l'approvisionnement en eau? Livia Khalil.
Oui, donc la gestion de l'eau au Brésil, elle est assez difficile, vu que le pays est un État fédéré. La gestion de l'eau comme de la santé, elle va se voir partagée entre le niveau fédéral, fédéré et local. Le gouvernement fédéral, il va avoir un rôle plus de coordination. Par exemple, il va élaborer des plans d'action pour le développement des structures d'assainissement public, comme le plan national d'assainissement qui a été élaboré en 2013. Par contre, c'est au niveau des États et au niveau des municipalités que les investissements en structure vont être faits. Donc, on a cette difficulté d'organisation aux différents échelons de gouvernance.
Donc si je repose ma question, Livia Khalil, au fond, qui est responsable, par exemple, s'agissant de Sao Paulo, des problèmes d'approvisionnement en eau? Vous nous répondez, et l'échelon fédéral, et l'agglomération de Sao Paulo.
Exactement. Dans un premier moment, surtout l'État de Sao Paulo.
Sauf que concrètement, aujourd'hui, la compagnie qui est responsable de cette distribution d'eau, elle est dans la capacité de donner de l'eau à tout le monde et donc procède régulièrement à des coupures. C'est des coupures qui sont temporaires, sauf que là aussi, on voit que en réalité, ce sont les quartiers défavorisés qui sont les plus exposés à ces coupures.
Tout à fait, tout à fait. Donc, la compagnie responsable de l'approvisionnement en eau potable à Sao Paulo, la Sabesp, est une compagnie publique-privée. Donc, on a 50% du revenu de la compagnie qui vient du secteur privé et moitié du secteur public. Aujourd'hui, ce qu'on voit, on a eu beaucoup de dénonciations venues des quartiers défavorisés de Sao Paulo sur le manque d'approvisionnement. Donc, comment combattre le coronavirus? Comment suivre la principale consigne de prévention, qui est basiquement se laver les mains avec de l'eau et du savon, si on n'a pas de l'eau?
Je voudrais faire réagir nos invités, Olivier Dabenne et Juliette Dumont, sur cette crise encore plus exacerbée du côté des favelas, et en particulier du côté de Sao Paulo, qui est un des foyers du coronavirus. Olivier Dabenne.
Moi, ce que je trouve fascinant, c'est effectivement cette auto-organisation cette capacité à réagir, cette solidarité. Mais aussi, il ne faut pas se le cacher, un rôle important joué par les organisations criminelles. On le voit d'ailleurs dans d'autres pays du monde, c'est pas qu'au Brésil et qu'en Amérique latine, mais quand même dans des quartiers où effectivement l'État n'est pas trop présent. Il faut toujours se méfier d'ailleurs de ce genre d'expression, l'État n'est pas présent, parce que l'État est présent, sauf qu'il décide de ne pas pénétrer très loin dans les favelas. Bah, il y a quand même des organisations criminelles aujourd'hui qui prennent des initiatives, qui déclarent un cessez-le-feu et qui décident d'aider les populations. Alors que là, on voit bien cette capacité qu'ont certaines sociétés à s'auto-organiser. Même les organisations criminelles jouent un rôle dans cette lutte contre le virus.
Juliette Dumont.
Oui, j'ai pas grand-chose en fait à rajouter. On avait déjà vu il y a 2-3 ans, il y a eu une sécheresse très importante dans l'État de São Paulo et déjà... il y avait eu de gros problèmes d'approvisionnement en eau, notamment pour les quartiers populaires de São Paulo. Alors évidemment, il n'y a pas ce contexte de pandémie-là, mais en fait, tout ça était très attendu. Enfin, il n'y a pas de... Malheureusement, si je puis dire, je ne suis pas surprise parce que décrit Olivia Khalil sur les problèmes d'approvisionnement en eau, sur les coupures régulières. À Rio, on a aussi des coupures régulières en électricité. Enfin, tout ça est de l'ordre du structurel, en fait. Et la Covid-19 vient juste jeter une lumière très crue et évidemment rajouter encore de la précarité, de la vulnérabilité pour ces populations, malgré effectivement leur capacité d'auto-organisation, de solidarité, de résilience. Je suis toujours un petit peu... En tant que Française, je ne parle pas en tant qu'historienne, chercheuse, je suis toujours assez fascinée par justement cette capacité des Brésiliens à l'auto-organisation. Nous avons tendance en France peut-être à trop attendre de l'État et moins s'auto-organiser. Au Brésil, il y a cette faculté-là, mais le tout, c'est trouver quand même un équilibre. Et à force de dire, voilà, c'est merveilleux, cette résilience, cette solidarité, bien sûr que c'est merveilleux. Mais à un moment donné, il faudrait, comme le dit Olivier Dabenne, que l'État décide quand même d'être réellement présent, notamment par des infrastructures d'assainissement, d'eau, d'électricité, d'éducation dans ces quartiers-là.
Ce qu'il ne fait pas pour le moment. Olivia Khalil, un tout dernier mot, parce que je voudrais vous entendre réagir à propos de ce que disait Olivier Dabenne sur le rôle des organisations criminelles, justement, dans cette crise. Vous confirmez qu'ils ont un rôle, très clairement, dans l'organisation de la réponse au Covid ? Olivia Khalil.
Oui. On entend beaucoup parler dans les médias l'action de ces organisations criminelles, surtout dans les favelas de Rio. Ici à São Paulo, je dois vous dire que je n'ai pas entendu beaucoup parler de ce côté-là, mais surtout de l'organisation des associations d'habitants et des commerçants de ces quartiers populaires, comme à Paraisópolis ou bien à Heliópolis. Donc les deux plus grandes favelas de São Paulo, mais oui, tout à fait, on voit beaucoup de reports d'habitants des favelas de Rio, plus spécifiquement sur l'action des organisations criminelles dans le sens d'aider l'organisation des habitants pour faire face à la Covid-19.
Merci beaucoup Olivia Khalil d'avoir été avec nous ce matin en direct de Sao Paulo. Comme je le fais souvent, je vous remercie doublement puisque vous vous êtes donc réveillé très tôt pour nous. On va parler d'une autre marge finalement que celle des favelas. On va prendre la direction de l'Amazonie pour parler des peuples d'Amazonie.
Ce coronavirus est un problème très sérieux, aussi bien pour vous que pour nous, peuple indigène. Comme vous le savez, le président du Brésil n'a aucune considération pour nous. Au contraire, ce président ne cherche qu'à nous attaquer. Il a réduit les budgets de la Fondation nationale de l'Indien et de l'organisme qui gère notre santé. Nous avons besoin de soutien financier et je me tourne donc vers vous pour soutenir ma communauté.
Voilà, cette voix qu'on entendait, c'était celle du chef Raoni, qu'on connaît bien, nous, ici, en Europe. On sait que le président Bolsonaro n'est pas franchement un défenseur de la cause indigène. Il ne cache pas le fait qu'il considère que les peuples autochtones sont un frein au développement du pays et il s'est toujours opposé à la protection de leur territoire. Alors, comment ces populations traversent-elles cette crise de la Covid ? Bonjour, François-Michel Letourneau.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes géographe et directeur de recherche au CNRS. D'abord, je voudrais vous entendre sur la réaction du gouvernement brésilien lorsque le premier cas avéré est apparu chez les peuples indigènes, parce que le gouvernement a très rapidement décidé de suspendre les autorisations d'entrée sur les terres indigènes pendant 30 jours, sauf qu'en réalité, cette décision, elle a mis en danger les indigènes, qui manquent bien sûr cruellement de moyens sanitaires. Plusieurs indigènes ont d'ailleurs appelé à éviter ce qui pourrait être un, je cite, « ethnocide dans le bassin amazonien ». Est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui une volonté de rassembler les conditions d'une catastrophe sanitaire et humaine chez les peuples autochtones d'Amazonie ?
Bon, je ne pense pas qu'on puisse dire que le gouvernement brésilien cherche volontairement à créer cette catastrophe. Maintenant, un petit peu comme disait Juliette Dumont, la crise révèle des structures profondes et des déséquilibres profonds. Or, les populations amérindiennes d'Amazonie brésilienne ont une assistance sanitaire qui est précaire, qui n'est pas complètement inexistante, mais qui est précaire. Et effectivement, on voit les trous dans la raquette de plus en plus avec la question de la Covid.
Est-ce qu'on peut penser, François-Michel Letourneau, que ces populations en particulier sont plus exposées, plus menacées par la Covid ?
Alors, on peut le penser parce que, historiquement, les populations amérindiennes de l'ensemble du continent américain ont été décimées par les épidémies venues d'Europe et notamment par les grippes. Et ce sont des populations qui sont très sensibles aux maladies respiratoires. Donc on n'a pas encore, comme la Covid est une nouvelle maladie, y compris pour nous, on n'a pas encore de recul. Il est possible que cette vulnérabilité plus grande joue en leur défaveur ou pas. Ça, c'est quelque chose pour lequel, pour le moment, j'ai pas vu d'informations spécifiques.
Mais en tout cas, l'histoire nous montre qu'on a des raisons d'avoir quelques inquiétudes. Les années 70-80 notamment, où les orpailleurs et autres ouvriers avaient amené des maladies, ça avait fait des ravages, notamment dans les villages de Yanomami, que vous connaissez bien.
Tout à fait. On sait que les épidémies ont des conséquences ravageuses sur ces villages isolés en forêt, surtout quand il n'y a pas d'assistance. Et vous dites dans les années 70-80, mais jusqu'à aujourd'hui, on a des épidémies d'hépatite ou de paludisme liées effectivement aux extérieurs qui envahissent les territoires amérindiens. C'est un phénomène tout à fait récurrent. Et du point de vue des Amérindiens d'ailleurs, en quelque sorte, nous, population occidentale et la société brésilienne, expérimentons aujourd'hui ce qu'ils expérimentent depuis 5 siècles avec une épidémie, comment on la maîtrise, comment on se confine, comment on se protège, ça ce sont des questions qui sont au cœur de la survie amérindienne depuis 5 siècles.
Sans compter que ces questions, elles existaient déjà avant l'arrivée de la Covid, cette question des menaces sur les territoires des populations autochtones et en particulier avec ce projet de loi qui est porté par le président Bolsonaro qui a l'ambition de permettre aux sociétés minières de leur accorder encore plus de liberté dans ces territoires autochtones.
Oui, alors effectivement, la législation brésilienne jusque-là était relativement protectrice pour ces territoires. C'est au grand dam du courant politique de Jair Bolsonaro et de lui-même, et eux veulent ouvrir beaucoup plus largement les territoires amérindiens à l'exploitation, quelles que soient les ressources qui sont exploitées d'ailleurs. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ça, c'est une partie du problème. L'autre partie du problème, c'est que les territoires amérindiens sont censément étanches et interdits, et en fait, ils sont constamment envahis par des forestiers, des chercheurs d'or, etc. Donc en fait, en quelque sorte, ce que la loi veut faire existe déjà sur le terrain et bien évidemment avec des conséquences compliquées pour les Amérindiens.
Alors il y a l'exploitation minière, mais il y a peut-être aussi un autre risque dont on parle moins souvent, c'est celui de l'évangélisation. Bolsonaro a nommé un ancien missionnaire qui s'appelle Ricardo López Dias pour organiser cette évangélisation dans ces territoires-là, et ça aussi c'est un vrai risque.
Oui, alors bon, il l'a pas nommé directement pour organiser l'évangélisation, mais effectivement, il a nommé un ex-missionnaire évangélique à la tête de la fondation publique qui s'occupe des Amérindiens du Brésil, ce qui est effectivement une grande préoccupation, d'autant plus qu'il y a des campagnes extrêmement agressives d'évangélisation de la part d'un certain nombre de sectes évangéliques dans le territoire brésilien. Donc effectivement, c'est une préoccupation de plus, qui cadre avec l'action générale du gouvernement Bolsonaro, qui est très proche des milieux évangéliques et qui cherche à propager cette fois de manière indéniable.
François-Michel Letourneau, au début du mois, le photographe franco-brésilien Sébastien Salgado a lancé une pétition en ligne en réclamant des mesures d'urgence pour protéger les indigènes du coronavirus. Est-ce que vous croyez à un sursaut populaire pour venir justement en aide à ces populations qui sont particulièrement vulnérables, vous nous le disiez ?
Oui, je crains que ce soit difficile au Brésil parce que la population brésilienne elle-même est accaparée par le souci qu'elle aussi est victime du coronavirus. Donc c'est pas quelque chose qui n'interviendrait que chez les Amérindiens et on pourrait les aider. Tout le monde est dans le sauf qui peut. Et je crains un petit peu que ce soit la même chose dans les pays européens qui sont les soutiens traditionnels de la cause amérindienne. Donc la situation va être extrêmement difficile. Mais effectivement, il faut faire pression sur le gouvernement Bolsonaro pour qu'il revienne à la raison dans ce domaine comme dans bien d'autres d'ailleurs.
Je vais peut-être faire réagir nos deux invités qui nous accompagnent depuis presque une heure maintenant, Olivier Dabène et Juliette Dumont. On va commencer avec vous, Juliette Dumont, sur ces peuples d'Amazonie qui, évidemment, sont en première ligne et particulièrement menacés par cette crise de la Covid.
Oui, là, je rejoins François-Michel Letourneau, c'est-à-dire que la Covid rajoute un facteur de fragilisation et de vulnérabilité, puisque depuis le début de son mandat, Bolsonaro n'a de cesse de répéter que ces populations indigènes sont un frein au développement. Vous mentionniez cet évangélique nommé à la tête de la FUNAI. Il y a aussi une dimension de guerre culturelle qui est très forte, alors vis-à-vis des indigènes et vis-à-vis de tout ce qui ne cadre pas avec l'ordre moral voulu par Bolsonaro et ses soutiens. Et sur la question du soutien international, il est évidemment très important. Effectivement, les pays européens sont un peu occupés à autre chose en ce moment, mais il y a une multiplication de plaintes, en tout cas de dépôts de plaintes auprès d'organismes internationaux, notamment le Conseil des droits de l'homme, la Commission des droits de l'homme à l'ONU, d'ONG, de secteurs de la société civile brésilienne pour alerter sur justement ces attaques contre les droits humains et contre les droits indigènes. Donc il y a une pression qui est là, qui est plus ou moins relayée en ce moment en Europe, mais qu'il ne faut pas perdre de vue.
Olivier Dabène, un mot de réaction qui sera aussi une conclusion. On arrive au terme de l'émission.
Je pense que les deux arguments massus qu'emploie Bolsonaro à propos de la forêt amazonienne et des populations amérindiennes, c'est-à-dire un argument en termes de développement économique d'un côté et de défense de la souveraineté du Brésil de l'autre, sont des arguments qui portent. Et donc, il n'y a pas de risque d'un soulèvement populaire, malheureusement, au Brésil pour défendre les populations amérindiennes ou voire même pour freiner la déforestation. C'est assez incroyable. En dépit des efforts de la Commission européenne pour soutenir des ONG, etc., la société civile brésilienne n'est pas si forte que ça. Et ces deux arguments, nous avons besoin de développement, de croissance économique, d'agrobusiness, etc. Et d'un autre côté, personne ne va nous expliquer ce qu'il faut faire avec notre propre forêt amazonienne. Ce sont des arguments très forts. Et je pense qu'il va falloir que la société civile trouve beaucoup plus de force pour s'y opposer.
Et vous parliez de la forêt amazonienne et de la déforestation. Pendant ce temps, la forêt continue de brûler. Les incendies continuent de ravager cette forêt amazonienne.
Falaram do mar, falaram da terra, falaram do céu e toco o telefone e as ideias fogem.